Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dans lequel nous consacrerons tout à l'heure une nouvelle page spéciale aux élections municipales. Mais voyons avant cela ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en commençant par ce mouvement du personnel d'Air Calédonie à la Vallée du Tir ce matin. Près d'une centaine de salariés étaient rassemblés pour alerter sur la menace qui pèse sur leurs emplois en raison des blocages des aérodromes dans les îles, Léana Colombo.
Oui, cela fait 10 jours que les aérodromes d'Ouvéa, Lifou, Marais et l'île des Pins sont bloqués par les collectifs d'usagers des îles. Je rappelle qu'ils proteste contre le déménagement d'Air Calédonie de Magenta vers Tontouta qui a eu lieu le 2 mars dernier. Les vols domestiques n'ont donc plus lieu, ce qui coûte très cher à la compagnie qui est déjà en difficulté financière. 150 emplois ont été supprimés après les émeutes de mai 2024. Il pourrait y en avoir 50 de plus si les blocages perdurent. La compagnie l'avait annoncé, Air Cal possède un mois de trésorerie. Il est donc urgent d'agir, soulignent les représentants du personnel qui ont rencontré le président du gouvernement, Alcide de Ponga ce matin, Robert Cono.
On veut sauver la boîte, on veut sauver nos emplois. Et le plan de sauvegarde de notre entreprise, c'était le déplacement sur Tontouta. Le message qui était porté, c'était juste discuter qu'il y ait des solutions, que le personnel, lui, on est là, on attend, mais on ne peut pas rester trop longtemps non plus bloqué. Le gouvernement est ouvert au dialogue de ce qu'il y a, mais revenir sur Machta, pour nous aussi, techniquement, et pour nos équipes, c'est compliqué. Le président nous a confirmé qu'il avait eu des discussions avec Île des Pins et Ouvéa. C'est juste avec les autres îles loyautés du coup, qui sont un peu en attente pour les discussions. Mais apparemment, il y a une délégation qui va demain sur Île des Pins pour échanger avec le collectif.
Robert Cono, représentant du personnel d'Air Cal. Un conseil d'administration d'Air Calédonie doit avoir lieu cet après-midi à 14h. Une réunion doit ensuite se dérouler entre les représentants et le directeur général de la compagnie, Daniel Omboui.
Justice, le verdict du meurtre jugé depuis hier aux assises de Nouméa est attendu dans les prochaines heures. Un homme de 38 ans est accusé d'avoir tué son ex-compagne Atio en 2023. Après une soirée d'anniversaire fortement alcoolisée, le meurtre a été d'une extrême violence puisque l'accusé a défoncé à coups de pierre le crâne de la victime. Après les témoignages hier, le deuxième jour de procès a débuté par la plaidoirie de la partie civile. Les réquisitions du ministère public devraient bientôt suivre avant la plaidoirie de la défense. Je vous rappelle que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis deux personnes poursuivies pour des menaces à l'encontre de Jean-Pierre Djaïoué. Elles ont été jugées hier sur reconnaissance préalable de culpabilité après avoir proféré des menaces de crime ou délit sur les réseaux sociaux, Nicolas Legrand.
Il faut lui mettre une cartouche ou encore mérite un requin bulldog. L'un des mis en cause explique avoir agi par colère en raison des positions de l'élu uni sur l'accord de Bougival ou encore sur l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Les deux hommes résident à Dimbéa et sont âgés de 35 ans. L'un a été condamné à 100 jours amende à 1000 francs, soit 100 000 francs à payer. Et en cas de non-paiement de cette amende, l'individu passera 100 jours en prison. L'autre a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans un délai d'un an et demi et 4 mois d'emprisonnement en cas de non-exécution de ce travail. Un troisième auteur présumé de menace a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Fayaoué à Ouvéa pour avoir écrit « Il faut le flinguer ». Il sera présenté au parquet lorsque les liaisons aériennes seront rétablies.
Et puis l'association La Case des Artistes, sanctionnée par la Cour des Comptes, l'arrêt rendu hier après l'audience qui s'est tenue le 10 février, précise que plusieurs manquements dans la gestion de l'association ont été relevés, notamment l'absence de déclaration aux organismes de sécurité sociale, mais aussi des irrégularité dans le suivi de certaines opérations financières. L'ancien président a été condamné à une amende de 2 000 euros assortie de 1 000 euros supplémentaires pour ne pas s'être présenté à l'audience, soit environ 360 000 francs. L'ancien directeur a lui écopé d'une amende de 3 000 euros, c'est-à-dire là aussi 360 000 francs. Une cérémonie ce matin, place Bir Hakeim. Les autorités civiles et militaires se sont retrouvées au pied du monument aux morts pour une cérémonie de dépôt de gerbes. Le 11 mars est en effet la journée nationale et européenne d'hommage aux victimes du terrorisme. Le 11 mars a été choisi en souvenir de l'attentat de Madrid en 2004, attentat le plus meurtrier perpétré sur le sol européen. Une journée pour se souvenir des victimes du terrorisme au sens large. Écoutez Anaïs Haït Mansour, c'est la directrice de cabinet du haut-commissaire.
Une journée en hommage à toutes ces victimes et également à leurs familles et, comme on le disait lors du message, à tous les citoyens qui, quelque part, ont agi lors de ces moments-là. Et je pense qu'on peut se souvenir, pour la France en tout cas, des attentats les plus meurtriers qui sont ceux de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l'Hypercacher. On a eu des élans de solidarité nationale. On a eu ces forces de sécurité, ces services de secours, du SAMU, des pompiers, mais aussi tous ces anonymes qui ont agi et qui ont été des véritables héros au cœur de l'obscurité. Voilà, l'idée de cette journée, c'est de rappeler ces moments-là, rappeler comment nous avons tous fait front de façon universelle au sein de la République face à l'obscurantisme.
Et pour cette cérémonie, les autorités civiles et militaires étaient présentes, place Bir Hakeim, mais également les associations patriotiques et mémorielles. Et puis toujours dans l'actualité en Calédonie, le conseil d'administration de l'OPT s'est réuni hier. Il a examiné plusieurs dossiers concernant l'évolution de l'établissement, notamment la vision stratégique 2026-2028, Nicolas.
Oui, l'objectif est de consolider et de renforcer la coopération entre ces différents métiers liés aux télécommunications, aux services postaux ou encore aux services bancaires. Le conseil d'administration a également été informé de l'avancement du projet de transformation de la fonction financière et du système d'information associé. Un point a aussi été fait sur les tarifs des télécommunications pour les rendre plus lisibles pour les clients. Plusieurs services devenus obsolètes ou qui n'étaient plus utilisés par les abonnés ont été retirés du catalogue. Catalogue qui sera dévoilé prochainement. Et enfin, le conseil d'administration a validé l'extension de certaines activités réalisées dans les agences de l'OPT. À terme, les clients pourront effectuer directement dans les agences proches de chez eux plusieurs paiements du quotidien, notamment les loyers des bailleurs sociaux, l'achat de billets d'Air Calédonie ou encore certaines créances publiques à la demande de l'administration fiscale. Cela s'inscrit en fait dans la continuité du projet de maison de service public.
Il est 11h38, une première pause dans ce journal. On va se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'actualité des élections municipales.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
J-4 avant le premier tour des élections municipales qui auront lieu, vous le savez, dimanche. Et nous poursuivons notre tour de Calédonie des communes. Lionel Sabot, avec vous, nous allons prendre la direction de Marais.
Oui, Marais qui est la deuxième commune des îles Loyauté en termes de population et de superficie, 6284 habitants pour une superficie d'un peu plus de 641 km². Marais est l'île la plus au sud des Loyauté. Pour ce scrutin 2026, ce sont 5 listes qui seront en lice. C'est une liste de moins qu'en 2020. Marilyn Sinewami, qui est maire sortant, est candidate à sa propre succession. Elle tire la liste UCFLNKS et nationaliste. Objectif, poursuivre ce qui a été fait lors de la précédente mandature qui a été perturbée par les différentes crises.
Il y a des infrastructures qu'on n'a pas pu rénover ou construire, comme au niveau des routes ou au niveau de l'électrification ou des écoles, de l'eau, les adductions d'eau. Il y a pas mal de projets aussi qu'on a dû arrêter. Sinon, c'est aussi au niveau de notre jeunesse, du social, mettre un point d'honneur aussi sur dans ce domaine, notamment dans l'accompagnement de nos jeunes au niveau de la formation, au niveau de l'entrepreneuriat. Voilà, on a beaucoup travaillé au niveau du social durant cette mandature. Le budget de notre CCAS a beaucoup évolué et donc c'est de poursuivre ces actions.
Maire de Marais entre 2014 et 2020, Pierre Ngaïoni est de nouveau candidat après avoir été battu il y a 6 ans. Il tire la liste dynamique unitaire Nangoné. Pierre Ngaïoni qui souhaite retrouver son fauteuil de maire après avoir été très déçu par l'équipe en place depuis 6 ans.
C'est un peu la déception, hein, donc de voir effectivement qu'avec une nouvelle équipe qui n'avait aucune expérience, ben voilà, le travail il est là, il est sous les yeux, hein. Il n'y a pas photo, comme on dit. Maintenant, c'est les gens qui décident. Nous, on dit voilà, on est là parce que ben on constate que voilà, il y a des gros soucis au niveau donc de l'exécutif municipal, au niveau de la politique donc de développement sur Marais, au regard des compétences donc de la commune. Donc, on en dit, ça suffit. Hein. On ne va pas attendre encore 7 ans à faire du surplace. Les priorités, sont effectivement les infrastructures communales, c'est aussi du social. Mais ces choses-là, c'est des choses que j'avais mises en place hein, et qui marchaient bien. Moi, je prenais un retour, effectivement, à la politique que j'avais conduite en 2020. Hein, parce qu'elle a donné des résultats que les gens ils ont envie de leurs yeux. Le bilan, il est là. Hein, les gens, ils voient. Hein, donc, c'est à eux de faire leur choix. Et s'ils veulent donc renouveler le choix hein, qu'ils ont fait en 2020, ben voilà, on aura encore 7 ans à pleurer. Quoi. Les gens, hein, ils voient hein, le bilan hein, donc, sous leurs yeux. Donc après, c'est à eux de choisir en responsabilité. Là.
Autre liste, celle qui est tirée par Clément Waya et baptisée Union nationale pour l'indépendance de Ningoné, liste essentiellement constituée de militants de l'UNI et de personnes de la société civile. Parmi les priorités de cette liste, l'économie et l'environnement.
D'agir sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des personnes et la difficulté de notre population à écouler les produits qui viennent de la terre de Ningoné, une terre agricole, principalement agricole. Et comment on fait ? Parce que les gens n'ont plus d'argent et pour vivre. Et c'est la réalité. Il faut sérieusement s'y pencher. Donc c'est pour ça que ça, c'est le premier axe. C'est travailler sur le pouvoir d'achat. Deuxièmement, on a fixé également des projets relatifs à la gestion de l'eau, puisqu'on a une nappe phréatique qui est très fragile. Donc, et pour pouvoir réduire également la facture d'eau, c'est très difficile. Donc, une vraie politique de l'eau avec nos populations, de manière très participative.
Quatrième liste en lice pour le scrutin de dimanche prochain à Marais, UC Ningoné Souveraine, qui est tirée par Jean Wayo. Une liste composée de nombreux jeunes de la commune et qui veut jouer la carte de la proximité avec les habitants.
On va déjà faire une audite pour voir quelles sont les choses. Voilà, on y va déjà pour la situation financière, puis comment améliorer les choses. Il y a des dossiers qui n'ont pas été terminés, on va avancer. Comme j'ai souvent dit dans ma tournée, j'ai dit on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. On va essayer de traiter en compte de ça, une audite financière. Et puis, comme ça, à partir de là. Mais sinon, on a un programme au niveau de la programme sur la jeunesse. On a maintenant avec les problèmes de délinquance, il y a la santé, il y a la crise. Maintenant, il y a les marchés communaux qu'on organise souvent à Nouméa. Mais les gens, ils produisent beaucoup, il y a le problème d'écoulement, il y a tout ça. Donc, je veux dire que c'est très terre-à-terre, notre programme. Moi, c'est souvent, le programme, on a mis un programme de cadre, mais la plus grosse partie de travail qui va être réalisé, on avait prévu qu'on va choisir des tournées trimestrielles dans chaque tribu pour récolter les doléances de chaque administration.
La dernière liste présente à Amarais est la liste dynamique autochtone qui est tirée par Robert Kawidron. Une liste apolitique, explique-t-il, qui a travaillé pendant 31 ans à la mairie de Marais et qui fait de l'environnement l'une de ses priorités.
On est sur une île où on vit de l'eau de la nappe phréatique. Donc, il faut déjà la préserver, déjà, parce que si on pollue la nappe, on n'aura plus. On va chercher d'autres moyens pour avoir de l'eau pour la population. Donc la première des choses, c'est ça, protéger notre nappe phréatique. Et ensuite, ben voilà, on a les routes qui sont vraiment dégradées. Et ensuite, il y a notre jeunesse. Il faut servir notre jeunesse dans tous les domaines. Déjà dans l'éducation, et puis après, il faut aussi leur aider pour construire une nouvelle habitation. C'est aider aussi à écouler nos produits, c'est ça, parce qu'au niveau de marée, il y a la surproduction hein, de produits vivriers. Et maintenant, il faut trouver comment mettre en sous-vide, par exemple, tous les produits saisonniers. Mettre en place une usine de transformation. Nous aussi, on est capable de gérer une commune et surtout satisfaire toujours le besoin de la population.
Voilà pour la présentation des 5 listes qui seront donc en lice dimanche pour le premier tour de ces élections municipales à Marais. Un mot en cœur pour vous dire qu'en 2020, pour le premier tour, la participation sur l'île de Marais était de 52,87%.
Et après Marais, nous allons nous intéresser maintenant à la commune de Cahalagomène, Léana Colombo, Cahalagomène, où 3 listes sont en présence.
Oui, deuxième commune agricole de Nouvelle-Calédonie après Bouraille. Cahalagomène est notamment connue pour sa conserverie de bœuf ouaco, mais aussi pour son extraction de minerais intégrée avec la SMSP. Comme d'autres communes du Nord, Calagomène a connu une augmentation de sa population d'environ 17% selon le dernier recensement de 2025 avec 2112 habitants. Pour autant, on constate une baisse des listes présentées pour ces municipales 2026, passant de 4 en 2020 à 3 cette année. On retrouve tout d'abord une personnalité bien connue des Calédoniens puisque cela fait 37 ans cumulés qu'il est à la tête de la commune. Alain Levent ne compte pas tirer sa révérence maintenant et porte la liste en tente communale.
À ce niveau-là, on aspire plutôt au repos. Mais quand toute une partie de la population vient me voir et peut me demander de continuer le service, j'ai répondu présent. Hein. Puis bon, quand on est maire, ben, on a toujours envie de rester maire. Ça, c'est humain, ça. C'est chez moi ici, puis je connais les populations. J'ai grandi avec tous les ceux qui y vivent. Je connais leur père, leur grand-père. J'ai ri depuis 1983. Donc on a fait un grand chemin ensemble. On a fait beaucoup de choses. La commune, elle est bien équipée pour une population de 2100 habitants. Le problème, je crois que c'est pas ce niveau-là actuellement en Nouvelle-Calédonie. Ce sont les relations entre les communautés. On se comprend pas, on s'est pas compris, on se comprend pas du tout, je sais pas. En tout cas, les émeutes ont prouvé que c'est pas en construisant des routes ou des conduits d'eau que ça va arranger. C'est pas ça. Ça, c'est le quotidien des gens, hein, mais qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus grand que ça. Donc, mon travail à moi, c'est essayer de rapprocher les populations. Oui. Le discours politique pour les prochaines élections qui viennent, hein, la campagne droite, c'est pas de voter pour moi, je vais faire des conduits d'eau ou de la peinture sur le trottoir. Non, c'est pas ça. C'est de faire de telle manière. Pourquoi on se comprend pas, oui. Pourquoi on cohabite? Pourquoi on serait amené un jour ou l'autre, peut-être, face à face? Alors qu'on a grandi ensemble, on a été dans les bancs d'école ensemble, on parle la même langue. Voilà, c'est ça le problème.
Hervé Tintaouva tentera de retrouver son siège de maire qu'il a occupé de 2014 à 2020 avec la liste Union citoyenne de Bois-Panou.
On avait l'expérience de la mandature 2014-2020. Malheureusement, que l'on a perdu à une quarantaine de voix. Il y avait des choses qu'on avait commencées pendant cette mandature qu'on aimerait bien terminer ou poursuivre. Et donc, c'est pour ça que l'on est revenu. On a 5 axes sur notre projet. La première, c'est tout ce qui est la gouvernance d'une mairie. Ensuite, il y a la partie sociale, la jeunesse, il y a la condition féminine, l'environnement, les établissements scolaires. On a mis des choses en place sur le sport, sur la jeunesse, et tout ça, ça a disparu. Bien sûr, il y a un axe sur l'initiative économique. Calagomène, il est entouré de mines. Tout le monde travaille à la mine. Mais nous, il faut aussi que l'on prépare aussi l'après-nickel. Il faut aussi que l'on prépare et on diversifie les initiatives économiques. Ici, il y a des associations qui font le café, plantation de cacao. Il y a des gens qui se lancent dans les ananas. Donc, c'est tous ces petits projets-là qu'on souhaite porter. L'autre chose aussi, c'est la partie de l'aménagement, la transversale Gomène-Yengen. Pouvoir terminer cette transversale pour désenclaver déjà les tribus d'en haut, mais aussi parce que cet axe-là, c'est le scolaire, la santé, les gens quand ils descendent pour aller dans les magasins se ravitailler. Donc c'est un axe qui est important pour eux et puis bien sûr pour nous.
La dernière liste est indépendantiste, unie pour Bois-Panou. Elle est menée par Pablo Poietti qui n'a pas souhaité s'exprimer après sollicitation.
Et puis venons-en à la campagne municipale à Nouméa, dont l'un des thèmes est la vallée de Sakamoto, 27 hectares de terrain situés entre la vallée du Tir et Magenta, qui est l'un des derniers espaces naturels à proximité du centre-ville, Elisabeth Noir.
Un espace naturel entouré de quartiers résidentiels et qui a longtemps été squatté avant d'être libéré en plusieurs opérations. Et en 2009, il avait fait l'objet d'un premier projet d'éco-quartier, un projet abandonné par l'actuelle municipalité qui estimait que la densité de logements prévue par la SIC était trop importante et qui, en 2023, a lancé un nouveau projet en association cette fois-ci avec le FSH. Mais deux visions s'opposent désormais, celle de la majorité sortante qui estime qu'il faut y construire des logements de façon raisonnée pour permettre aux jeunes d'accéder à la propriété, et celle de l'association Ecovalley Sakamoto qui veut préserver un poumon vert au cœur de Nouméa et qui refuse que Sakamoto soit bétonné et consacré au logement social. C'est ce que souligne Luc de Villers, le président de l'association Ecovalley Sakamoto.
Ce quartier de Haut-Magenta, les Hautes-Vallées des Colons et les Hautes-Portes de Fer sont dépourvus d'équipements publics, collectifs et d'accès gratuit. On se situe à plus d'un kilomètre et parfois plus encore des autres équipements, c'est-à-dire le parc des 5 îles. Et en plus, on est adossé à la zone industrielle de Ducos. Donc, quand on a vu qu'on avait l'opportunité de préserver cette vallée, qui est un des derniers poumons verts de la ville de Nouméa, c'est vraiment un des derniers espaces où des enfants de Nouméa pourraient se promener sous les arbres sans entendre de voiture. Et passer un bon moment.
Un projet d'aménagement de Sakamoto soutenu dans son programme par la liste conduite par Virginie Rusnak et intitulé pour Nouméa une énergie nouvelle. Les opposants au projet de la municipalité soulignent aussi qu'il y a suffisamment de logements vacants à Nouméa pour ne pas en construire davantage. De son côté, Sonia Lagarde, qui conduit la liste avec nous pour Nouméa, défend le projet de la municipalité qui vise à permettre l'accession à la propriété aux jeunes Nouméens.
Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est qu'on puisse loger nos jeunes, c'est-à-dire l'accession à la propriété pour nos jeunes, parce qu'il n'y a plus de terrain dans la ville et ils sont obligés d'aller s'exiler du côté de Païta, voire plus loin, parce que là, ils arrivent à trouver des terrains avec des prix qui correspondent à leurs ressources. Donc le FSH me dit, mais nous, on sait faire l'accession, donc on peut vous proposer un projet. C'est ce qui a été fait. Ils sont revenus me voir quelques temps après et je leur ai dit, attention, pas d'immeuble, pas de barre de béton, uniquement de l'accession et de l'accession libre. C'est comme ça que l'acte de vente a été négocié, c'est écrit noir sur blanc.
Pas de barre de béton, souligne Sonia Lagarde, mais 180 logements, dont 70, seront destinés à des salariés du privé, avec des aides pour l'accession à la propriété.
Ils pourront obtenir des aides pour le foncier à hauteur de 3 millions, une aide d'un million pour les frais notariés, et puis s'ils veulent construire une maison, ils peuvent aussi profiter du dispositif de la province sud qui aide les gens à partir de, je crois, 2 millions, à condition que leurs ressources ne dépassent pas 600 000 francs par mois. Le reste, c'est vraiment de l'accession libre. Je peux déjà vous donner le prix des terrains. Pour ceux qui sont en bas, des terrains de Cisard, ils vont avoisiner entre 7,4 millions ou 7,8 millions et 8,5 millions. Ceux qui sont situés un petit peu plus haut, toujours pour Cisard, seront de l'ordre de 13,5 millions. Et enfin, en bas de la rue Topalovitch, en contrebas, pour ceux qui ont vraiment une vue dans toute la vallée, entre 6 et 7 arts, ce sera 24 millions.
Des logements dont ne veut pas l'association Ecovallée Sakamoto, elle propose un projet de parc naturel que nous présente Luc de Villers.
Ce qu'on propose, c'est un parc très faiblement aménagé. Un espace qui ne soit pas autant protégé que la forêt sèche du Huentoro, mais qui soit aussi peu aménagé que ça, simplement clôturé parce que de mauvaises personnes ont eu l'habitude de le prendre pour un dépotoir. Donc il faut en protéger les abords pour éviter que ça soit la foire. Et à l'intérieur, simplement des chemins entretenus pour pouvoir se promener, randonner. Des cyclistes, des associations de cyclistes, des associations de marcheurs avec qui on a été en contact utilisent déjà ce parc. Ils font un travail remarquable d'ailleurs de débroussaillage et d'entretien dans ce parc. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cet espace assez libre, et puis ensuite, des événements ou des activités temporaires pour en s'y mettre, mais pas d'aménagement lourd. Un espace où on peut se promener, avoir de la nature autour de soi, voir une des seules sources d'eau douce de Nouméa, et c'est pas très loin du parc forestier, donc ça irait en très bon complément avec le parc forestier.
Il y a eu des contacts entre l'association et la mairie, mais chacun reste sur sa position. Le maire sortant Sonia Lagarde relève que sur les 27 hectares, 15 seront réservés à un parc naturel et elle refuse que l'on qualifie le projet du FSH de social plus plus.
Mais non, et moi je trouve dommageable, vraiment, parce que j'ai reçu l'association. Je leur ai expliqué ce qu'était ce projet. Et je leur ai dit, mais vous portez la responsabilité un jour de dire non à tous nos jeunes qui sont dans la vie active, qui sont mariés, qui ont des enfants, des jeunes quadras ou des jeunes trentenaires, et qui seront obligés d'aller plus loin à Païta, voire plus loin pour accéder à la propriété. Moi, je refuse de faire en sorte que nos jeunes s'exilent plus loin, alors que je sais que ça n'est pas une opération extrêmement sociale et qu'il y a en plus 15 hectares de terrain public. Donc, je trouve ça dommage qu'on puisse autant s'évertuer à dire que ce projet ne doit pas se faire, qu'il faut laisser un poumon vert, mais il y aura 15 hectares de poumon vert quand même, et la possibilité pour nos jeunes d'accéder à la propriété. Je trouve dommage qu'on y fasse un élément qui paraît essentiel pour certains dans une campagne électorale. Il y a sans doute d'autres choses bien plus positives à dire que de priver nos jeunes d'une accession à la propriété.
L'association Ecovallée Sakamoto, de son côté, est allée en justice contre le projet de la municipalité et elle a gagné en première instance.
Quand on s'est réveillé assez surpris de voir ce projet, surtout après mai 2024, c'est-à-dire où il y a des centaines de logements qui sont vacants au sein de Nouméa. Donc on s'est opposé au permis de lotir. On a remporté une victoire. Le tribunal administratif a donné raison aux riverains qui se sont opposés à ce permis de lotir. Aujourd'hui, la mairie et le FSH ont fait appel. Donc on appelle tous les citoyens de Nouméa à, si possible, devenir membre de l'association ou nous faire un petit don pour aider les requérants à porter ce recours, parce que c'est très onéreux en termes de frais de justice. Et on peut vous garantir que les fonds sont exclusivement dirigés vers ça. Donc oui, on est en procédure et on espère le remporter. En tout cas, on a de bonnes chances de le faire parce que le dossier est plutôt bon.
Luc de Villers, le président de l'association Ecovallée Sakamoto.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables au regroupement des bureaux de vote mis en place par Nouméa et les communes de l'agglomération pour les élections municipales. Ils ne sont que 9% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Voici notre question du jour. Pensez-vous que la guerre en Iran va mettre un terme au régime des Mollahs ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La guerre en Iran, c'est justement le premier titre que nous allons développer dans la prochaine page à venir consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Et ouais !
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole dans le monde avec Jean-François Baudin.
11e jour de guerre en Iran. La guerre est bientôt finie, avait déclaré hier, Donald Trump, qui a mis depuis quelques nuances sur la suite des opérations militaires de la coalition contre le régime de Téhéran et ses installations militaires et stratégiques. Et ce 11e jour de guerre a été marqué par les frappes de la coalition les plus intenses depuis le début du conflit. Elles avaient été annoncées par le chef du Pentagone, Pete Hegseth.
Nous ne relâcherons pas la pression tant que l'ennemi n'aura pas été totalement et définitivement vaincu. Mais nous le ferons à notre manière. Nous le ferons selon notre calendrier et à notre convenance. Par exemple, aujourd'hui sera une fois encore notre journée de frappe la plus intense à l'intérieur de l'Iran. Le plus grand nombre de chasseurs, le plus grand nombre de bombardiers, le plus grand nombre de frappes avec un renseignement plus affiné et meilleur que jamais. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, ces dernières 24 heures ont vu l'Iran tirer le plus faible nombre de missiles dont il a été capable jusqu'à présent.
Et en marge de ce conflit, le sort des joueuses de l'équipe nationale de football iranienne inquiète. Elles ont refusé de chanter l'hymne de la République islamique lors d'un match de Coupe d'Asie en Australie. Un geste fort et public qui laisse craindre le pire à leur retour à Téhéran. Alexis Bourdon pour Europe 1.
18 des 26 membres de la délégation se trouvent actuellement dans un avion direction l'Asie du Sud-Est pour une première escale avant un retour à Téhéran. 6-5 joueuses ont obtenu l'asile en Australie. Hier, 3 de plus ont réussi à échapper aux gardiens de la Révolution qui composent le staff de l'équipe. Pour les autres, celles montées à bord, c'est l'inquiétude. Sur certaines vidéos tournées par des Iraniens vivant en Australie qui ont tenté d'empêcher le décollage, des joueuses faisant des signes de détresse avec des lampes torches. Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azavi, se fait du souci pour celles qui font route pour l'Iran.
Ce qui nous fait le plus peur, c'est qu'elles soient emprisonnées, torturées et condamnées à mort, en sachant qu'elles ont été déclarées comme traîtres à la nation par les gardiens de la révolution islamique. Et donc, on est très, très, très inquiet du sort qui les attend à leur retour.
Une inquiétude déjà partagée hier par de nombreuses personnalités, Donald Trump ou même Reza Pahlavi, le fils du dernier chat d'Iran, appelé l'Australie à assurer la sécurité de la délégation iranienne.
D'autre part, la tension continue de monter dans le détroit d'Ormuz, que les Iraniens veulent maintenant miner pour empêcher le trafic international. Le cours du pétrole a pourtant baissé après les déclarations du président américain, mais autant la hausse a été répercutée rapidement à la pompe en métropole, autant la baisse tarde à se matérialiser. Bercy a annoncé 500 contrôles, 6% des 231 stations-service déjà contrôlées affichaient des tarifs abusifs. Dans ce contexte, Emmanuel Macron plaide pour le nucléaire. Le chef de l'État a ouvert le deuxième sommet international sur le nucléaire civil qui se tient en région parisienne. Le nucléaire est source d'indépendance énergétique, la période où le monde a expliqué le chef de l'État, mais c'est aussi une énergie décarbonée et compétitive et c'est une filière d'avenir.
On le voit dans le contexte géopolitique, combien lorsqu'on est trop dépendant des hydrocarbures, cela peut devenir un instrument de pression. Et donc, le nucléaire permet de répondre à cette équation, parce que le nucléaire permet de produire de l'énergie en quantité compétitive et pilotable. Ce sont plus de 100 000 personnes que nous devrons recruter au moins dans les 10 ans à venir. Ce qui veut dire que pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des emplois dans le nucléaire, dans des métiers qui permettent des progressions de carrière remarquables.
Emmanuel Macron en ouverture du deuxième sommet international sur le nucléaire civil. L'actualité en métropole avec cette opération Octopus destinée à porter un coup à la DZ Mafia. Vaste opération menée conjointement dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard qui a abouti à l'arrestation de 42 personnes, dont 3 chefs présumés de l'organisation mafieuse, William Molinier.
Du jamais vu dans cette guerre lancée contre la DZ Mafia, 42 personnes interpellées en même temps, dont un avocat lyonnais, mais surtout 3 chefs du gang qui sont actuellement en garde à vue, surnommés Gabi, Mamine et La Brute, déjà incarcérés, qui menaient leurs affaires derrière les barreaux. Cette enquête vise à déterminer tous les rouages du groupe mafieux et de son financement, notamment les activités de blanchiment. Le but est clairement de porter un coup dur à cette organisation mafieuse qui n'a pris que trop d'ampleur ces dernières années, rappelle Bruno Bartosetti du syndicat de police Unité pour la zone sud.
La DZ Mafia, on le sait, il n'y a pas de morale. On est dans un cartel, tout est bon justement pour gagner de l'argent avec des rackets, avec des extorsions de fonds. On emploie des jeunes mineurs, on a fait des tueurs à gages. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur dans notre pays et il faut se donner les moyens pour les interpeller, les faire tomber. Et là, on en a un exemple, un travail qui a été très très bien mené par nos amis gendarmes.
Qualifiée de pieuvre, la DZ Mafia a également démontré ses capacités de corruption, que ce soit dans certaines sphères de la justice ou encore dans le monde portuaire. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Voilà donc pour cette affaire de Octopus, cette vaste opération menée dans le sud de la métropole. Une évasion remarquée par son mode opératoire à la prison de Villepinte. C'était le week-end dernier, un homme de 21 ans incarcéré pour des violents homejacking, dont certains contre des personnalités, a été extrait de sa cellule, puis remis à des policiers en vue de son audition au palais de justice. Sauf que la convocation était un faux et que les policiers venus le chercher étaient aussi de faux agents. L'évadé et ses complices sont activement recherchés. Et puis 5 personnes, dont 2 mineurs interpellés à Aix. Ils s'apprêtaient à faire décoller un drone pour une livraison en prison. Le drone est de plus en plus utilisé pour porter des téléphones portables, des stupéfiants, voire des armes à feu aux détenus. L'actualité économique avec ce chiffre inquiétant. En 2025, 61 500 chefs d'entreprise se sont retrouvés au chômage. Et la tendance dure depuis plusieurs années. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Chaque jour, l'an dernier, 168 dirigeants ont été contraints d'arrêter leur activité, un chiffre qui a plus que doublé en 4 ans. Une situation inquiétante pour Hervé Kermarek, président de l'association GSC pour garantie sociale des chefs d'entreprise.
Jamais depuis que l'Observatoire existe, nous n'avions enregistré autant de dirigeants qui avaient perdu leur emploi. Au bout d'une entreprise, vous avez un consommateur, vous avez des entreprises, vous avez des investisseurs. Et si la consommation diminue, eh bien les entreprises vendent moins. Si les investissements diminuent, eh bien les entreprises vendent de la même manière moins.
Un climat global qui a eu raison du club de jazz lancé à Paris il y a 4 ans par Grégoire. De belles affiches, une fréquentation qui grandit, mais impossible à rentabiliser.
Rattrapé par la patrouille économique qui fait que les charges augmentent, les loyers augmentent. Sur les 4 ans, on n'a jamais réussi à trouver une rentabilité économique. La première douche froide, c'est déjà quand on se met en redressement judiciaire. Ça, c'est pas une période simple à vivre. Une fois que c'est fini, qu'on a rendu les clés, là, on se retrouve tout seul.
Aucune aide, pas de chômage. Il a pu s'en sortir grâce au conseil de l'association 60 000 rebonds qui accompagne partout en France des dirigeants dans son cas.
Midi 4, on va conclure ce journal dans un instant après la dernière pause. Ce sera évidemment avec la page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Réglez bien la température de votre chauffe-eau. Une bonne température, c'est moins d'électricité consommée. Avec un mitigeur, le reste à la bonne température et vous gaspillez moins. Les longues douches coûtent cher. Retrouvez toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Élection municipale à Nouméa. Information pratique. Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Oliveau aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courteau Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobarède à la Vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
L'Infomag continue avec le village automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au village automobile au BK4 à Nouméa.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
Et l'actualité sportive nous amène d'abord en Italie où la délégation tricolore a décroché 3 nouvelles médailles cette nuit aux Jeux Paralympiques de Milan, Cortinale et Officiu.
Oui, du bronze, de l'argent et de l'or. L'or d'abord pour Arthur Boscher. Il lui tournait autour depuis le début de ses Olympiades italiennes et ça y est, il a enfin remporté sa médaille tant attendue sur le combiné debout en ski alpin malgré un pouce dans le plâtre. Écoutez sa réaction.
C'est aussi grâce à cette équipe qui est autour, à ce staff qui est super important et bien sûr ma famille qui est là et qui clairement me donne des ailes. Je pensais pas pouvoir y arriver aujourd'hui et en fait c'était juste fou au final ce qui s'est passé sur la fin. Moi je crois que ma réaction elle parle par elle-même, un vrai hystérique.
C'est la 4e médaille en or décrochée par Arthur Boscher sur l'ensemble de ses Olympiades, la 10e médaille olympique en carrière. Aurélie Richard, elle, a décroché sa 3e médaille d'argent dans ses Jeux Paralympiques de Milan. Cortina, elle a terminé sur la 2e marche du podium du combiné debout. Enfin, Benjamin Davier a décroché la médaille de bronze en sprint classique debout. À 36 ans, c'est sa 11e médaille olympique.
Le football avec ce matin les premiers 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Des surprises, mais aussi une pluie de buts.
En ouverture, Galatasaray recevait Liverpool et à la surprise générale, ce sont les Turcs qui se sont imposés. Victoire 1-0 grâce à l'ancien Marseillais Mario Lemina. Le Barça a été tenu en échec sur la pelouse de Newcastle, 1-0. Et puis, dans les 2 dernières rencontres, le Bayern et l'Atlético Madrid n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Victoire 6-1 du Bayern avec notamment un doublé de Michael Olise sur l'Atalanta Bergame et victoire 5-2 de l'Atlético Madrid avec un but d'Antoine Griezmann sur Tottenham. Demain, 4 rencontres au programme. Bayern Leverkusen, Arsenal à 4h45. Et puis à 7h, le PSG recevra Chelsea. Le Real Madrid accueillera Manchester City. Et enfin, le Sporting Portugal ira en Norvège pour défier Bodo Glimt.
Un mot de cyclisme en bref pour vous signaler la victoire de l'équipe Ineos Grenadier sur la 3e étape du Paris-Nice. Un contre-la-montre par équipe de 23 km 500 qui permet à Juan Ayuso de s'emparer du maillot jaune de leader. L'Espagnol possède 2 secondes d'avance sur le Français Kevin Vauclin et 3 sur le Britannique Oscar Henley. La 4e étape ce soir ralliera Bourges à Huchon, 195 km accidentés avec une arrivée au sommet. Et puis terminons en marge du sport par cet événement ce matin au centre du don du sang de Nouméa. Alors que les réserves sont une nouvelle fois au plus bas, notamment pour les groupes O et A, le 15 du Pacifique était sur place de 8h à 10h. L'occasion pour les donneurs de rencontrer l'équipe militaire de rugby et de donner son sang en musique, Léo.
Oui, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée des 80 ans, célébrant le retour des volontaires du bataillon du Pacifique. Pendant 2 heures, les joueurs, on vous le disait, Jean-François, rencontrer les donneurs, soutenir la promotion du don du sang, c'est une cause qui fait écho à leurs valeurs, a rappelé le major Massey, responsable protocole du 15 du Pacifique.
Bien évidemment, comme je l'ai dit au médecin qui nous a reçus ce matin, sur la partie scientifique, la partie technique et tout ça, nous n'y connaissons rien, nous avons fait plutôt partie de ceux qui ont été donneurs à un moment donné, puisque dans les armées, très souvent, il y a des campagnes de don du sang. Nous en sommes très heureux. Là, nous sommes là ce matin, mais on veut participer à notre manière, effectivement, à relancer les donneurs à venir nombreux au don du sang.
Quelques donneurs sont venus spécialement pour la visite des joueurs et du staff du 15 du Pacifique. D'autres, habitués, étaient présents également ce matin, comme Meryl. Ils ont particulièrement apprécié ce moment d'échange en musique.
C'est agréable, ça fait une bonne ambiance, c'est vraiment sympa d'être venu aujourd'hui. C'est plus chaleureux, alors on est toujours bien accueillis ici, mais c'est vrai que ça rajoute un plus.
Et comme l'a expliqué le docteur Duval, c'est une opération qui tombe au bon moment, puisque le centre de don du sang rappelle que les besoins restent importants en cette période.
L'idée, c'est vraiment en fait, de montrer que le don du sang, le fait de venir donner son sang, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, pour toutes les ethnies de Nouvelle-Calédonie. Donc, par leur présence, on espère qu'ils, du coup, qu'ils donneront l'envie aux jeunes Polynésiens, Wallisiens, Futuniens, Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie de venir donner leur sang également.
Prochain événement organisé ici au centre de don du sang, c'est une nocturne. Elle aura lieu lundi, le 16 mars, de 7h15 à 18h avec ou sans rendez-vous.
Un journal que nous terminons donc en musique avec le 15 du Pacifique qui a donné son sang ce matin. Reportage de Léo Fichou, il est midi et 11 minutes.